Alors bonjour et bienvenue pour cette interview comme coach. Ici Cédric Coppie et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit de Sylvaine Pasquale d'Itac Coaching. Alors Sylvaine est coach et consultante en relations humaines. Elle est créatrice d'Itac Coaching qui a récemment fêté ses 3 ans. Itac Coaching accompagne principalement les personnes qui sont en reconversion professionnelle mais également les personnes qui veulent améliorer leur vie sur le plan relationnel. Et donc, si je ne m'abuse, Itac Coaching propose aussi la supervision du coaching pour les entrepreneurs. J'ai fait la connaissance de Sylvaine en la découvrant sur Twitter il y a plus d'un an maintenant et j'ai commencé à lire régulièrement son blog, qui est une véritable mine d'informations dans le domaine du développement personnel et du coaching. Et sa démarche de coach et la façon dont elle utilise les réseaux sociaux, mais aussi son site, qui est un blog pour se faire connaître, eh bien, tout ceci lui rapporte la quasi-totalité de sa clientèle. Donc, j'ai donc décidé de lui proposer une interview pour qu'elle nous parle de l'importance de sa présence en ligne pour le développement de son activité et qu'elle partage sa vision sur l'utilisation du web dans le développement d'une clientèle en tant que professionnel indépendant. Alors, sans plus attendre, j'accueille Sylvaine. Bonjour Sylvaine, comment vas-tu ?
Bonjour Cédric, très bien, merci et merci de me recevoir.
Merci à toi d'avoir accepté cette interview et de répondre à mes questions. Donc on va passer un moment ensemble. Et donc j'avais quelques questions à te poser justement sur l'usage de ton site et des réseaux sociaux pour le développement d'Itac Coaching. Mm-hmm. Alors, ma première question, c'est savoir quand et comment as-tu découvert le blogging et l'usage d'un blog et qu'est-ce qui t'a amené à en faire un outil pour promouvoir tes services de coach ?
Alors, le blogging, j'ai découvert ça il y a à peu près 4 ans, avec l'idée de commencer un blog, mais pas tellement de temps ni de motivation pour le faire. Et puis, il y a 3 ans, donc je me suis installée à mon compte. Et assez rapidement, je me suis dit que je n'étais pas du tout une fan du démarchage. J'avais besoin d'une stratégie commerciale et d'une stratégie de communication, que les stratégies classiques ne me convenaient pas du tout, mmh. et que ma stratégie allait être essentiellement axée sur le développement de la visibilité d'un blog. Donc à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon blog, donc ça c'était en avril 2008, mmh. Très rapidement, je me suis prise au jeu de l'écriture, en fait. Donc, je me suis fait très, très, très plaisir. Mmh. Je continue toujours de me faire très plaisir avec mon blog. Et donc, derrière, il y avait l'idée qu'il allait me rapporter ma clientèle.
Mmh. D'accord. Très bien. Et donc, est-ce que, actuellement, maintenant, est-ce que tu envisagerais de faire ton activité sans l'utilisation d'un blog, justement, sans ce blog ?
Alors non, sûrement pas du tout. D'abord parce que je m'amuse beaucoup à le faire, pour tout un tas de raisons, parce qu'il suscite énormément d'échanges avec des gens d'horizons très variés, aussi bien des professionnels avec qui je peux être amenée à travailler. Mmh. Ouais. Que des gens qui sont en questionnement, soit dans leur relationnel, personnel ou professionnel, soit dans leur orientation, leur transition professionnelle, etc. Et puis, une autre raison, c'est aussi le fait que d'écrire, c'est devenu pour moi une sorte de laboratoire. Ça me permet de réfléchir sur ma pratique. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'évolution personnelle. Et puis, la dernière raison, c'est évidemment qu'aujourd'hui, il me rapporte la quasi-totalité de ma clientèle et que ça fonctionne tellement bien que depuis quelques mois, je ne pouvais plus fournir et que donc, je me suis associée récemment avec une autre coach qui prend en charge une partie des missions que je ne peux pas prendre en charge. Donc, ça serait quand même dommage.
D'accord, ouais, effectivement. Et enfin, moi, je trouve ça particulièrement, ce dernier point particulièrement intéressant parce que c'est vrai que moi, quand je discute avec des prospects ou des gens qui voient mes présentations, qui me disent mais mon site me ramène aucun client, le web ça marche pas pour trouver des clients. Et quand je commence à leur parler de solutions, de visibilité, d'utiliser un blog, elles me disent mais moi, c'est pas mon métier, je veux coacher, je suis pas webmaster. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ?
Alors, effectivement, un coach, il n'est pas nécessairement webmaster et il n'a pas nécessairement envie de développer les compétences pour le devenir. Ceci dit, dans ces cas-là, il y a quand même la solution de le faire faire, ce qui est quand même assez facile. On trouve facilement des professionnels très compétents là-dessus de nos jours. D'autant plus que le référencement est devenu, par rapport à il y a quelques années, quelque chose d'extrêmement complexe. Et qu'avant d'avoir un petit peu de visibilité, ben, il y a beaucoup de travail et que c'est un travail qui s'improvise pas. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, mais je pense l'avoir appris sur le tas à une époque où c'était encore faisable de l'apprendre sur le tas. Mmh. Et qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Mmh. Et que la totalité de cette démarche d'apprentissage, aussi bien technique, hein, créer un site, que technique de référencement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mmh. Alors, je crois que c'est vraiment une question à se poser en tant que coach. Est-ce que moi, j'ai envie de consacrer ce temps-là pour avoir un petit peu de visibilité, ou bien est-ce que j'ai une autre démarche commerciale ? Voilà, et des démarches commerciales plus classiques, peut-être du réseautage dans la vraie vie, etc. Mmh. Donc je pense que c'est effectivement une question à se poser. D'autre part, il y a toute la question de l'écriture aussi. Mmh. Alors, quand j'ai commencé mon blog, il n'y avait pas tant de blogs de coach que ça. Aujourd'hui, il y en a énormément. Mmh. Et ce qu'on constate, c'est que énormément de blogs font l'erreur de proposer du tout venant, de proposer les mêmes outils que tout le monde. Mmh. De façon très neutre, un petit peu sans personnalité des fois, ce qui donne d'une part le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de goût pour ça derrière, donc pas vraiment d'enthousiasme, et puis ce qui d'autre part ne développe pas une identité propre. Hein. Et ça, je crois que c'est important. Je crois que pour que ça fonctionne, pour que ça serve à quelque chose, il est nécessaire que le coach qui anime son blog ait envie non pas de raconter la même chose que tout le monde, mais de raconter quel coach il est. Mmh. Qu'est-ce qui l'anime ? Qu'est-ce qui le motive ? Quelles sont les convictions qui lui font prendre telle ou telle orientation ? Voilà, ce genre de choses. Mmh. Et pour ça, il y a besoin quand même d'avoir du goût pour tout ça.
C'est vrai que quand on parcourt ton blog, itaccoaching.com, on sent une marque personnelle. Enfin, ce que tu parles d'identité propre,
oui.
C'est aussi un terme, marque personnelle, personal branding.
Oui.
Et c'est vrai qu'on sent cette identité très très forte chez toi et des outils dont tu parles régulièrement sous différents angles, dans différents cas de figure. Et en fait. Ça, c'est vrai que on voit beaucoup sur des sites d'indépendants ou de coach ou principalement de coach qui ont une attitude généraliste, mais qui en plus parlent plus des outils que d'applications potentielles, ce qui fait que on voit tout plein de sites où les gens parlent d'outils, donc les termes reviennent, PNL, tout ça, mais au final, on ne sait pas vraiment quels sont les résultats qu'on peut en obtenir pour quelqu'un qui ne connaît pas ces méthodes, ces outils.
Alors, effectivement, quand je parle d'un outil sur mon blog, j'y rajoute toujours un élément qui m'est personnel. Mmh. J'y rajoute ma façon de le voir, ma façon de l'utiliser, d'en faire quelque chose, cet outil-là. Et ça, je pense que c'est important parce que il y a un certain nombre d'outils de base simples que presque tous les coachs utilisent. Mmh. Et je pense que c'est important, justement, d'y mettre un peu de soi. Mmh. On les utilise tous, mais on les utilise tous à notre manière. Et je pense que c'est important que cette manière qui nous est propre transperce au travers de l'écrit. Mmh. Que ça se voit. Et que c'est effectivement avec ça que va se construire petit à petit la marque personnelle, on peut tout à fait l'appeler comme ça. Et il me semble important que cette marque personnelle, elle soit teintée d'authenticité. Mmh. Et que l'authenticité, ça passe aussi par ça. Hein, tel outil, bah oui, voilà, moi je l'utilise comme ça.
Mmh. D'accord.
Uh-huh. Cette spécificité, c'est bon. Je parle de ça aussi parce qu'on voit aussi, beaucoup de plagiat, hein, beaucoup de récupération, parfois d'articles entiers pompés chez le voisin.
Ah ouais.
Et ça, oui, ça m'arrive régulièrement.
D'accord. C'est une preuve de qualité.
Il y a des gens que c'est bien mignon de me plagier, mais que ça ne me fait pas spécialement plaisir. Mais bon, en dehors de ça, même sans parler de plagiat, parce que bon, quand on parle, par exemple, je sais pas, d'un outil comme l'Objectif Smart, c'est pas du plagiat. En revanche, l'intérêt, en allant y mettre quelque chose de personnel dedans, c'est que c'est là où le client potentiel, il va se dire, ah, mais tiens, celui-là, sa façon de parler de cet outil-là, et je ne choisis pas l'Objectif Smart au hasard, hein, parce que c'est un outil qu'on voit absolument partout, y compris dans les blogs qui parlent de management, etc.
Ouais.
Donc c'est un outil qui est vraiment super connu, et c'est cette petite différence qui va faire que le client potentiel va se dire, mais tiens, sa façon à lui ou à elle de parler de cet outil-là, moi, il me parle. Voilà, et c'est là où finalement il est vraiment dommage de donner l'outil comme ça de façon très neutre, parce que c'est justement cet apport personnel, cette spécificité qui peut être plein de choses. Ça peut être aussi bien de l'humour que une façon particulière d'envisager l'outil, rajouter quelque chose à l'outil ou bien enlever quelque chose parce qu'on estime que tel aspect est pas forcément indispensable. Voilà, c'est cette spécificité-là qui va susciter l'intérêt.
Ouais, d'accord. Donc j'entends dans ce que tu dis que c'est vrai que l'importance de pouvoir communiquer qui on est réellement au travers du blog, c'est aussi une opportunité d'avoir un site comme ça où on peut régulièrement poster et puis en dévoiler un peu plus sur qui on est et comment on utilise ces outils pour résoudre différentes sortes de problématiques. Est-ce que tu penses que donc ou plutôt j'ai l'impression et tu vas pouvoir me le confirmer ou pas, que c'est pour toi une partie très importante de la réussite de la promotion d'Ita Coaching par le biais du blog.
Oui, bien sûr, oui.
Et est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui à ton avis, font une différence?
Alors, pour moi, il y a eu deux choses. Il y a eu le blog dans un premier temps. Qui me permet de vraiment expliquer ma façon de voir et de pratiquer mon métier. Et puis l'année dernière, je me suis intéressée à Twitter tout simplement parce que il y a eu un moment où j'ai constaté de par les échanges que je pouvais avoir avec des lecteurs que les gens avaient envie d'en savoir plus sur moi et sur moi en tant que personne. Or, c'était pas tellement mon objectif que de me mettre en avant en tant que personne sur mon site. Alors du coup, à ce moment-là, c'est là où j'ai développé un compte Twitter que j'avais qui était quasiment totalement inactif depuis pas mal de mois, on va dire. Et donc sur ce compte Twitter, je mêle à la fois une veille professionnel sur les thématiques qui m'intéressent, donc les thématiques de coaching, de relationnel, de développement personnel, et puis aussi d'emploi, de recrutement, de création d'entreprise, de reconversion. Et à côté de ça, je m'autorise des interactions beaucoup plus personnelles sur des tas de sujets qui m'intéressent. Bon, aujourd'hui, mes lecteurs savent que je suis une passionnée de rugby, par exemple. Et là, je m'autorise pas mal de liberté parce que c'est aussi un moyen finalement de montrer qui on est, de se rendre accessible, de se rendre disponible. Et je trouve que c'est aussi une part importante du métier. C'est un métier qui reste encore mal connu, mal perçu. Et je trouve que c'est important de pouvoir être disponible pour pouvoir éventuellement répondre aux questions de gens qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément des clients potentiels, mais qui ont envie d'en savoir plus. Donc du coup, je suis très active sur Twitter depuis février 2010.
D'accord.
Et ça a démultiplié l'effet du blog, en fait.
D'accord.
Et ça a augmenté la visibilité. Alors, c'est pareil, là aussi, hein, y a des façons d'utiliser Twitter. Et dans l'ensemble, il y a assez peu de coachs francophones actifs sur Twitter. Et parmi ceux qu'ils sont, il y en a une écrasante majorité qui ne tweetent que leurs prestations. Ce qui n'a absolument aucun intérêt. ce qui fait que du coup, ils ont peu de visibilité et ne suscitent pas d'interaction. Mmh. Or, le principe de Twitter est quand même l'interaction.
C'est l'engagement, c'est de pouvoir avoir des interactions, poser des questions, échanger, effectivement.
De discuter, d'échanger, ouais. De partager de l'information qui soit autre chose qu'une prestation. Mmh. Voilà, et puis c'est aussi l'occasion de nouer un certain nombre de liens personnels et ou professionnels. Et de nouer des partenariats aussi. Hein. J'ai créé un partenariat dans l'accompagnement à la recherche d'emploi par ce biais-là, avec Idée Carrière que j'ai rencontré via Twitter.
Uh-huh. D'accord, donc c'est aussi une belle opportunité justement de trouver des partenaires, de créer des synergies et d'interagir et d'engager facilement le contact.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément un vecteur, en tout cas immédiat ou rapide, de clientèle directe. En revanche, ça peut être de la clientèle indirecte.
Mmh.
Par le biais des recommandations de la part de professionnels.
D'accord.
En fait.
Uh-huh. D'accord, c'est vrai que peut-être quelqu'un qui est sur Twitter et qui te suit depuis un moment va croiser quelqu'un avec une problématique de reconversion professionnelle et justement se dire... et en fait, c'est un peu du bouche-à-oreille peu numérique, finalement.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est ça, hein.
C'est du clavier à oreille.
D'accord, très bien. Alors justement, j'ai une question. Tu parlais justement de disponibilité, donc le temps que tu passes sur ton blog, le micro-blogging aussi. Mm-hmm. Les gens se demandent souvent combien de temps ça prend Et justement, je vais te poser la question, si c'est pas indiscret, combien de temps est-ce que toi, ça te prend pour entretenir cette présence, entretenir cette marque personnelle en ligne et justement avoir ces interactions et publier des informations, faire cette veille. Est-ce que tu peux à peu près nous faire une décomposition approximative du temps que ça te prend par semaine?
Alors, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qu'il est essentiel de rappeler en amont, c'est que du coup, je n'ai aucune démarche commerciale.
Mmh.
Grosso modo, le temps que d'autres passent en démarche commerciale, moi, je le passe sur mon blog et sur la visibilité sur Internet.
Mmh.
Alors, concrètement, comment ça se passe ? Je suis quasiment systématiquement sur Twitter tous les matins entre 7h et 9h.
Mmh,
je peux y revenir parfois occasionnellement dans la journée si j'ai quelques minutes et que j'ai rien d'autre à faire. C'est plutôt rare. Il m'arrive d'y être le soir, mais alors là, c'est beaucoup plus personnel que professionnel, on va dire.
Mmh.
Et le temps passé sur le blog, alors c'est vrai que je passe énormément de temps à la rédaction de mes articles, pour une autre raison aussi, c'est le fait que je fais, selon le thème de mes articles, il m'arrive de faire beaucoup de recherches.
Mmh.
Beaucoup de recherches sur la validité de certains outils, par exemple. Hein.
Mm-hmm.
D'aller chercher des études, je lis beaucoup d'études psy pour valider ou invalider certaines techniques issues du développement personnel qui sont pas toujours très efficaces.
Mm-hmm.
Voilà, donc ça, effectivement, ça prend énormément de temps, sachant que c'est à la fois un travail de visibilité, mais aussi un travail d'évolution personnelle.
Mmh,
mmh. Donc le temps est relatif dans tout ça. Et la rédaction des articles, ça me prend, selon la nature des articles, et s'il y a besoin de faire de la recherche autour ou pas, ça me prend entre 2 et 5 heures.
Mmh, d'accord.
Donc 3 fois par semaine.
Ah, pour chaque article, entre 2 et 5 heures.
Pour chaque article, oui.
D'accord.
Oui, bon, en plus, rajouter à ça aussi le temps de réflexion sur l'écriture pour Internet. Hein, c'est pas écrit de manière complètement anodine non plus.
Mmh.
Et puis la mise en page, tout simplement. Ça prend un peu de temps, la mise en page.
Ouais, voilà. Trouver les images, etc.
Oui.
C'est pas tout simple. D'accord. Merci pour cette réponse détaillée. Je voulais Je voulais aussi te demander, donc on va arriver vers la fin de l'interview, hein. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu aurais un dernier message, quelques dernières recommandations, conseils à donner à un coach indépendant qui est en train de penser à son site et voilà, qui voudrait peut-être avoir la même rentabilité au niveau de sa visibilité en ligne que la tienne?
Alors, je crois que la première chose, c'est l'authenticité. C'est l'apport personnel dans ce qu'on écrit, hein, être soi-même et ne pas se cacher, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, pas se cacher derrière la neutralité d'un outil. Le deuxième point, c'est la réflexion, c'est-à-dire pas se contenter de ce qu'on a appris en formation, mais aller constamment plus loin. Et aller constamment se questionner soi-même sur ses pratiques au travers de la rédaction des articles. Et puis je crois que l'élément le plus important derrière tout ça, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir, s'amuser. Les blogs qui sont rédigés par des gens qui ne s'amusent pas en les rédigeant, ça se voit. Et à l'inverse, les gens qui se font plaisir, ça se voit aussi. Et ils s'en dégagent un plaisir contagieux, en fait, hein, qui donne envie. Voilà, ça c'est pour moi les trois éléments principaux.
Les trois éléments clés, donc, pour quelqu'un qui voudrait utiliser un blog pour
ouais.
promouvoir son activité, d'accord. Eh bien, bah, je te remercie, Sylvain, hein, ça va, on arrive à la fin de cette interview. Je suis sûr que ben, jusque toutes les astuces et l'état d'esprit que tu as pu partager par rapport à la promotion d'une activité d'indépendant en ligne ben, vont avoir intéressé beaucoup de nos auditeurs qui pourront ben, justement écouter cette interview en intégralité sur le blog comme coach.
Eh bien, merci à toi, Cédric. Et puis, eh bien, j'espère qu'on aura prochainement un tas de blogs passionnants à lire.
J'espère aussi. Donc voilà, pour nos éditeurs, je vous rappelle que vous pouvez découvrir le blog de Sylvain Pasquale sur www.itaccoaching.com. Donc il y aura l'adresse en dessous de cet élément de podcast sur lequel vous écoutez cette interview. Et donc, comme je vous le disais, son blog est vraiment une fantastique source d'informations sur le développement personnel et le coaching. Et donc, vous y trouvez toutes les informations dont vous avez besoin si vous souhaitez contacter Sylvain.
Merci, Cédric.
Merci, Sylvain. Au revoir.
Au revoir.